gratuit de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Léo Ferré est un auteur, compositeur, interprète, né à Monaco en 1916, qui a marqué les esprits depuis la fin de la guerre, à partir de 1946, jusqu'à sa mort en 1993. Anarchiste, il a en effet porté haut et fort les idéaux de liberté pour lesquels il militait et qu'il chantait, dénonçant l'asservissement des bien-pensants aux valeurs bourgeoises et mercantiles. Léo Ferré est aussi un passeur magnifique. Il a également mis en musique les grands noms de la poésie française, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Apollinaire ou encore Villon et Aragon, qu'il a fait connaître et aimer au grand public. Il est mort en Toscane à l'âge de 77 ans.
Léo Ferré, vous avez attendu d'avoir 54 ans pour écrire, ou en tout cas pour faire éditer votre premier roman. Est-ce que c'est une œuvre récente ou est-ce que c'est le résultat d'un travail relativement long que vous avez longuement hésité à faire publier ?
J'ai longuement hésité à faire publier. Je n'ai pas tellement pensé à le faire publier. D'autre part, j'ai commencé ce livre en 56, exactement le 25 novembre 56 à Paris. J'ai mis deux ou trois ans à l'écrire, comme ça, de temps en temps, à temps perdu, comme on dit. Et je l'ai fini cette année, parce qu'il fallait que je donne le manuscrit à l'éditeur. Enfin, de toute façon, c'est un livre qui a été commencé il y a longtemps.
Vous dites, je l'ai terminé cette année parce que je devais le donner à l'éditeur. Est-ce que c'est cette obligation qui vous l'a fait terminer ?
Oui, absolument. Sinon, je ne l'aurais pas terminé. Je l'aurais terminé peut-être dans 10 ans, je ne sais pas, quoi. Oui, j'ai terminé parce que je devais donner le manuscrit, puis j'ai terminé vraiment la veille de partir d'Italie, j'ai terminé la veille, c'est sûr.
Alors, vous l'avez terminé parce qu'il le fallait, est-ce que par hasard vous l'avez écrit parce qu'il le fallait ou parce que vous en aviez besoin ou envie ?
Je ne sais pas, alors voyez-vous, je pense que le fait qu'un homme se mette devant une page blanche, ce qui est toujours un problème, c'est difficilement explicable. Un tas de choses qui rentrent en jeu. Peut-être le fait de laisser, comme ça, par écrit, des choses que je connais bien de mon enfance. Et d'autre part, le fait d'écrire, quoi. Et de se rendre compte qu'on peut écrire. C'est la première fois que j'écrivais de ma vie, quoi. Une chose appelée à être lue, en définitive, qui ne soit pas une chanson. Et ça, peut-être que ça m'a intéressé, comme ça, du point de vue technique, ça m'a amusé, quoi, de faire ça, quoi. Je crois que le premier lecteur du livre, c'est l'écrivain, quoi. Il se lit, il se gargarise de ses phrases et tout ça. Il se dit, je suis un grand écrivain, c'est merveilleux.
Mais tout de même, il y a d'autres motivations, parce que, effectivement, l'un des thèmes centraux de ce livre, c'est l'enfance. Et évidemment, votre enfance, puisqu'on sait que vous êtes né à Monte-Carlo, enfin dans la principauté, oui. Et que vous avez vécu une grande partie de votre jeunesse, de votre enfance en Italie, il semble bien que ce personnage fasse la même chose que vous.
Oui, mais je crois que la raison, au fond, qui a été la raison inconsciente pour moi au début, qui est devenue la raison pour laquelle j'ai laissé éditer ce livre, c'est que on ne connaît pas l'enfant. On s'occupe beaucoup des enfants. On s'occupe des enfants, on s'occupe de leurs études, on s'occupe de leur rhume, on s'occupe de les montrer, de dire c'est, j'ai un gosse qui est le plus beau du monde, qui est le plus merveilleux, qui est intelligent. Ou alors on dit ce gosse, il est comme ça, il faut qu'il fasse ça, il faut qu'il apprenne à se tenir bien à table et tout ça. On s'en occupe, c'est un visage double, n'est-ce pas, de la parenté. Mais en définitive, on ne sait pas qui est-ce. L'enfant, on ne sait pas, on ne connaît pas. Il n'y a que lui qui connaît, et encore, lui ne peut pas s'exprimer. J'ai voulu écrire ce livre, je crois, en définitive, pour pour mettre à nu la solitude de l'enfant. Et la solitude d'un enfant n'est pas partageable, surtout d'un enfant artiste. Évidemment, il s'agit de moi. Je raconte à travers des choses comme ça, revues et inventées. C'est mon enfance à moi, n'est-ce pas? C'était moi, le petit Benoît. On se connaît un peu, quoi, heureusement. C'est donc un enfant artiste, donc un enfant seul. Et il faudrait ouvrir la tête des enfants pour voir ce qu'ils ont dedans, et puis après agir en conséquence.
Et cette misère est peut-être plus psychique que matérielle?
Sûrement. D'abord, jamais matérielle, parce que moi, j'ai jamais été misérable, jamais, du tout, non. Et je trouve d'abord misère, c'est un joli mot. Et puis, c'est la misère, comme vous dites, psychique, quoi, qui est une misère abominable. La misère physique, on s'en sort toujours. Vous savez, dans nos pays, on meurt pas de faim, c'est pas vrai. On peut toujours travailler le minimum par jour pour acheter un bout de pain pour manger. Hein. Non, la misère intellectuelle est beaucoup plus tragique que l'autre. D'ailleurs, les mauvais souvenirs sont toujours des souvenirs psychiques. On ne se rappelle pas des mauvais moments matériels. Je veux dire des mauvais moments matériels. Je ne veux pas dire quand on a souffert par le corps, c'est pas pareil. Mais la faim, la soif, tout ça. Du moment qu'on a mangé, qu'on a bu, après, on se rappelle les bons moments. Jamais, jamais les mauvais, ce plan-là. Mais la misère psychique, c'est toujours présent.
C'est déjà la solitude.
Évidemment, c'est déjà la solitude. Et puis alors, chez un artiste, l'art, c'est une excroissance de la solitude. C'est comme une espèce de cancer. Comme l'artiste est seul, il donne quelque chose, il donne son môme, quoi, à d'autres, quoi, pour provoquer une rencontre, quoi, un regard, que ça, même quelque chose qui... Quelqu'un qui ne voit pas, ou c'est le meilleur public, c'est celui qu'on ne verra jamais.
Cette fameuse fin du mois, qui depuis qu'on est toi et moi, nous revient 7 fois par semaine, et nos soirées sans cinéma, et mon succès qui ne vient pas, et notre pitance incertaine. Tu vois, je n'ai rien oublié dans ce bilan triste à pleurer, qui constate notre faillite. Il te reste encore de beaux jours, profites-en, mon pauvre amour. Les belles années passent vite. Maintenant tu vas partir, tous les deux, nous allons vieillir, chacun pour soi. Comme c'est triste, tu peux remporter le phono, moi je conserve le piano, je continue ma vie d'artiste. Plus tard, sans trop savoir pourquoi, un étranger, un maladroit, lisant mon nom sur une affiche, te parlera de mes succès, mais un peu triste, toi qui sais, tu lui diras que je m'en fiche.
Votre premier moyen d'expression, c'était la musique. Et puis ensuite, vous êtes venu à la chanson, puisque vous êtes fait parolier parce que vous ne trouviez pas les paroles qui vous convenaient. Et c'est finalement la littérature à laquelle vous accédez en dernier. Ça vous paraît une courbe normale? Est-ce que dorénavant, la littérature va prendre plus d'importance?
Je ne sais pas. Je crois que la littérature, c'est une chose plus facile. Quand on a une audience, vous savez, l'artiste qui fait sans savoir s'il va avoir un public, ça doit être tragique. Le cas de Van Gogh, par exemple, abominable, il a jamais vendu qu'un tableau, et à son frère qui pour lui faire plaisir lui a acheté un tableau un jour. Mais la littérature est facile parce que une page blanche, et bien ça se remplit plus ou moins vite, d'accord, mais fait, ça finit par se remplir, et puis cette espèce de clin d'œil qu'on fait à quelqu'un qu'on connaît pas, au lecteur, c'est excitant, quoi. Et c'est, on est beaucoup moins, voyez-vous, j'ai l'impression que ce serait plus facile pour moi d'être derrière, sur ma table ou à ma machine à écrire, puisque j'écris à la machine, je suis tranquille, comme ça je n'ai pas besoin de prendre un risque quand même de rentrer. Vous savez, moi, quand j'entre en scène, j'ai peur, toujours. Peur qu'il se passe quelque chose. Et là, c'est plus tranquille. On est peinard, quoi.
Mais où est-ce que vous vous exprimez le plus pleinement?
Vous savez, moi, j'ai jamais besoin de m'exprimer. C'est ça, le problème. J'ai pas besoin de m'exprimer. Je m'exprime parce que c'est comme ça, quoi. Parce que ça s'est trouvé comme ça. J'étais un type renfermé. J'étais un type qui était intimide, qui était... Un rentré vraiment un solitaire. Et un beau jour, malgré moi, je dis des choses. Et j'ai l'impression qu'avec un livre, on peut s'étaler davantage. Il est beaucoup plus facile d'écrire un livre qu'une chanson. Parce qu'une chanson, c'est court. Et que dans 2 minutes, il faut dire ce qu'on peut dire dans un livre en s'étalant, vous comprenez?
Mais est-ce que... Vous avez conscience, enfin plus exactement, est-ce que vous avez fait de la littérature ou est-ce que vous avez fait autre chose que de la littérature?
Moi, je pense que j'ai écrit ça passionnément. Maintenant, on fait toujours de la littérature, c'est sûr. Et oui, c'est sûrement quand on écrit, on se contrôle, malgré tout. Même, vous savez, le miracle, qui est une chose incontrôlable, comme tous les miracles, quoi, c'est le vocabulaire. Alors là, je ne suis pas arrivé à savoir. Je porte, par exemple, puisqu'il s'agit de moi, au moins un stock de vocabulaire, un stock de mots, qui viennent précisément au moment où il faut, avec la pensée. Et des mots dont j'ignorais il y a 5 minutes que je les connaissais. Et le mot juste, le mot précis, c'est ça, ce robot merveilleux que nous portons à nous.
Ce livre finit un peu étrangement. Pourquoi est-ce qu'il finit comme ça?
Je ne sais pas ce que vous appelez étrange, mais je crois que je dis... je veux dire que... mythiquement, on enterre cette espèce de sabbat un peu intellectuel. On enterre ses misères, et je dis quand on le réveilla, c'était un homme. Au fond, le livre s'arrête au moment où j'ai 13-14 ans, quoi. Et au moment, effectivement, où je suis devenu un homme.
Pauvre sens et pauvre mémoire, m'a Dieu donné le roi de gloire, et pauvre rente, et droite au cul qu'en bise vente, le vent me vient, le vent m'évente, l'amour est morte. Ce sont amis que vent emporte, et ils vantaient devant ma porte, les emporta. L'espérance de lendemain, ce sont mes fêtes.
Les journaux, Léo Ferré?
Non. Très, très rarement. Enfin, les grands, les titres comme ça. Puis les journaux sont... Il y a tellement peu de journaux qu'on devrait lire au fond. Enfin.
Mais est-ce que ça tient aux journaux ou est-ce que ça tient à votre nature? C'est-à-dire, est-ce que vous n'êtes pas a priori enclin à lire le journal?
Non, c'est parce que les journaux m'ont lassé, quoi. Ils sont toujours très sympathiques, les journalistes, vous savez, quand on les voit. Et puis quand on les voit plus, ils réinventent leur métier, je pense, et puis ils deviennent, ils sont tout seuls devant la page blanche. Et je suppose que cette solitude les rend maussades d'abord, et puis comme ils ne sont pas tous très intelligents, ils viennent méchants. Alors déjà, moi je connais beaucoup de gens qui sont très sympathiques comme ça, avec qui... On fraternise. Et puis lorsqu'ils sont partis, ils redeviennent ce qu'ils doivent être. Je pense, et ils sont méchants, quoi. Ça m'est arrivé il y a quelques jours. Alors maintenant, ça veut dire que maintenant, que ce soit les bons ou les mauvais, j'essaie de ne plus les lire. Les bons non plus, parce que, au fond.
Et là aussi, il y a deux catégories de journalistes. Il y a ceux qu'on appelle les critiques, c'est-à-dire qui se situent toujours plus ou moins sur le plan esthétique, ou enfin sur ce qu'on a coutume d'appeler l'esthétique. Oui. Puis il y a les écotiers. Et dans votre métier, précisément, vous êtes en but aux deux.
Oui, alors les écotiers, n'en parlons pas. Les écotiers racontent les échos qui sont toujours faux, la plupart du temps. Et puis, cela dit, il y a des gens qui font très bien leur métier, je dois dire. Et puis, il y a les critiques, les gens qui sont depuis des années dans une place.
Il est évident que dans le système actuel, on ne conçoit pas une profession comme la vôtre ou celle d'écrivain. Vous êtes d'ailleurs aussi écrivain, on va y revenir, mais on ne conçoit pas le métier d'auteur de chansons, d'écrivain, d'acteur, de metteur en scène, de théâtre, de réalisateur de films, sans que ce personnage se trouve forcément en face du mur de la critique. Et par ailleurs, on pourrait essayer de... non pas de réinventer, mais de penser à une forme de critique qui serait autre chose que le compte-rendu mondain des scores des différents chimpanzés destinés à distraire le public.
Et oui, mais alors là, c'est comme vous dites, c'est un nouveau métier à inventer, je pense. Une nouvelle... comment dirais-je... Moi, je pense que la critique... difficile de dire ça, parce que... on a l'air de dire que la critique nous vienne, c'est pas vrai. Mais la critique, pour moi, ça ne devrait pas exister, parce qu'en définitive, vous savez que dans un théâtre, ce qui marche, c'est d'abord la publicité. Il faut que quelqu'un sache que l'artiste est quelque part. C'est-à-dire que moi, je suis à Bobigny en ce moment, et bien les gens voient, ont vu à la radio, bien dans la rue, les affiches, Ferré est à Bobigny. Bon, ben, ils ont envie de me voir, ils viennent, parce qu'ils savent que je suis là. Mais les critiques, ça n'a aucun intérêt, parce que la meilleure, comment dirais-je, la meilleure publicité est celle qui se fait de bouche à bouche, c'est-à-dire ce qu'on appelle le téléphone arabe.
L'apport du public dont vous avez besoin, c'est pas la critique qui vous le fait.
Mais la critique, c'est le jugement d'un homme sur quelque chose qu'il voit ou qu'il sent ou qu'il ne sent pas, c'est tout. Donc il peut se tromper et il peut avoir une influence néfaste sur les gens. Critique, moi je peux rien dire, mais de toute façon je les aime pas. Je trouve que j'ai dit dans une de mes chansons des tonnes de crachats sur la criticature.
La réclame. La réclame, dis-lui ces quatre vérités. Les oiseaux, c'est rigolo, ça vise les murs par en haut sur la réclame. Ils ont des pâtés pourtant, ils traînent jamais comme les gens sous la réclame. Arrête-toi passant, accroche bien tes croyants à leur musique. Les murs, ça peut briller, mais faut le client pour donner dans la mimique. Que tu n'es pas un rond ou bien que t'as les murs au fond, c'est pas bégueule. Tout rempli de leurs zinzins, t'as qu'à passer sans y faire gaffe en levant la gueule. Et voilà, tous les murs qui s'engueulent et qui te réclament. Et qui te réclame tout nu comme la vérité.
Je suppose que très jeune, vous avez plus ou moins eu l'idée ou l'envie de faire des choses qui ressemblent un petit peu à ce que vous faites. C'est pas par hasard que vous faites ce que vous faites. Est-ce que déjà à cette époque, vous avez dit deux, trois choses là qui sont assez significatives, on est seul au monde, vous l'avez dit tout à l'heure, des choses comme ça. Bon, cette espèce de sensation de la solitude, cette espèce de démarche qui est un peu tragique quand même. Est-ce que c'est une conscience que vous avez depuis longtemps ou est-ce que c'est un acquis?
Ah, ça devait être un acquis, mais ça, c'est comme des acquis, on ne s'aperçoit pas. Un jour, on se rend compte qu'on est fait comme ça. Moi, quand j'étais petit, je devais être comme je suis, mais je ne m'exprimais pas du tout. D'abord, j'étais un petit docile, timide. Et j'étais un artiste sans le savoir. Quand, vous savez, quand j'étais tout petit, je chantais des choses. Je devais dire que je composais comme ça. Je chantais. Et je pensais que tous les gens étaient comme moi. Et un jour, je me suis aperçu que c'était pas vrai, que j'étais seul, que j'étais un petit artiste. Et puis, les petits artistes, ils sont pas, il n'y a pas d'exemple qu'un artiste ait été aidé, quoi. Petit, quoi. Ou alors, ce sont de géniales exceptions, comme Mozart, ou bien comme Menuhin, qui jouait aussi bien le violon à 9 ans, qui joue maintenant encore, n'est-ce pas? Mais un artiste, c'est vraiment l'albatros.
Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur des gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traînés à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui naguère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer, exilé sur le sol, au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher.
Je reviens à cette idée du canard noir. Est-ce que, par exemple, vous avez très certainement été attiré par la musique relativement tôt, vous étiez à l'école, vous étiez en pensionnat, je crois que vous avez fait vos études en Italie, c'est ça, non?
Oui.
On fait une partie de vos études en Italie.
Oui.
Bien. Alors, est-ce qu'à cette époque-là, par exemple, vous dites, sauf quelques exceptions, d'une façon générale, les jeunes artistes ne sont pas tellement aidés, ça veut dire, finalement, ne sont pas tellement compris. Est-ce que vos copains, par exemple, comprenaient...
Vous comprenez, je chantais des chansons dans des repas, alors Léo chantait mon chanson, c'était à ce niveau-là. Les copains étaient comme les autres, vous comprenez. Parce que l'artiste, c'est un personnage incroyable, quoi. Et puis c'est un personnage ridicule, aux yeux de la populace. Ridicule. Nous sommes des gens ridicules. Tant mieux, c'est comme ça, mais c'est triste.
Mais les relations, dans la cour de récréation, l'entente avec les copains était bonne, mauvaise? Vous pouviez jouer avec eux ou leur jeu vous paraissait sans intérêt ou enfin...
Quelle horreur, les copains, quelle horreur. Les copains qu'on vous impose. Les amis, les seuls amis qu'on ait, on en a un dans la vie, peut-être un ou deux. C'est-à-dire, moi ce que je dis, le frère qu'on se choisit. Ça c'est une chose, une chance, quand on en trouve un. Mais les copains d'école, les copains qu'on ne voit plus. Enfin, il m'arrive de revoir des gens qui ont vieilli. Alors on se rend compte qu'on a vieilli soi-même quand on voit l'autre, que tout d'un coup on le voit. Et singulièrement les gens qui boivent, parce qu'ils sont nombreux les gens qui boivent. Ils ne savent pas les gens qui boivent. Ils ne le savent pas parce qu'ils ne se voient pas boire d'abord, puis ils ne se voient pas vieillir en buvant. C'est-à-dire. Et ça m'arrive, ça. Il y a beaucoup de gens qui boivent. Et de revoir des gens comme ça, qui est ce type? Qu'est-ce que c'est? Et puis tout d'un coup, on éclaire, parce que j'ai pas mal de mémoire. Et les gars, j'ai dit, ah, c'était celui-là. Mais aucune envie de voir, jamais, vous comprenez. Les copains d'école, sur lesquels on sentimentalise, eh bien, c'est, y a rien de plus faux. Comme les copains de caserne, ce sont des fanales pour moi, des becs de gaz, vous comprenez, qui vous éclairent même pas.
Le passé n'a pas d'importance pour vous?
Le passé, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je dis qu'il ne faut pas se retourner. Moi, c'est pour ça que je dis que je vis demain matin. Risque de mort compris. Parce que je pense tout le temps à la mort. Donc, je ne fais pas de projet lointain.
Avec sa faux des quatre saisons,
et du crêpe dans son peignoir. Sur ses échasses de béton, dans les faubourgs du désespoir, elle meurt, sa mort, la mort, elle meurt avec ses cordes pour la pluie. À encorder les poitrinaires, ces poumons de cendre qui prient dans la soufflerie des mystères. Elle meurt, sa mort, la mort, elle meurt sur la route des jours heureux, dans les bielles et dans le courroux, en mettant du noir sur les yeux et du sang frais sur les cailloux. Elle meurt, sa mort, la mort. L'hôpital meublé de ses gens, dans les salles où dorment les chromes, avec son fils et ses gants blancs.
C'était Profil par Émile Noël avec aujourd'hui Léo Ferré. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 4 janvier 1971. Vous pouvez la télécharger pendant un an et la réécouter à volonté à la page des nuits sur franceculture.fr.